Vous êtes sur RTL.
Citroën.fr.
RTL Matin avec Yves Calvi.
Nous serons avec Laurent Gérard dans quelques minutes, mais à 8h41, c'est la revue de presse avec Amandine Bégaud. Et on ouvre d'abord Le Monde ce matin avec ce reportage qui vous a interpellé, Amandine.
Interpellé et beaucoup touché, vous allez très vite comprendre pourquoi. Cette histoire, c'est celle de Rama, Mariam et Amina, trois sœurs dont le quotidien est rythmé par la maladie de leur maman, une polyarthrite qui condamne cette femme à vivre dans un fauteuil roulant. Rama, 9 ans, a quasiment toujours vu sa maman dans cet état. Quand elle rentre de l'école, cette petite fille ne prend même pas le temps d'enlever son cartable ni de défaire ses lacets. Non, elle se précipite dans la chambre de sa maman pour voir, dit-elle, si elle va bien et si elle n'a pas besoin de quelque chose. Elle lui raconte ses bonnes notes, lui remonte le moral. Les deux grandes, Mariam, 18 ans, et Amina, 14 ans, elles, ont une toute autre routine. À l'heure, écrit Camille Bordonnet, où la plupart des ados s'enferment dans leur chambre pour faire leur vie, les deux aînées, elles, s'inquiètent d'abord du quotidien. Les courses, le rangement, le ménage, les repas, il y a aussi les médicaments à aller chercher. Bref, pas le temps de sortir avec les copains. Mariam, étudiante en BTS, a d'ailleurs refusé d'aller poursuivre ses études à Paris. Qu'irait-elle faire dans un studio à plus d'une heure de chez elle, alors qu'ici, ses parents et sa sœur, dit-elle, ont besoin d'elle. Sa mère lui dit de sortir, de profiter de la vie, mais Mariam sait que tout ce qu'elle fait à sa place lui évitera les douleurs et la menace d'une hospitalisation. Mariam, Amina et Rama sont ce qu'on appelle de jeunes aidants, des enfants qui prennent soin soit d'un papa ou d'une maman malade. Comme elle, il serait aujourd'hui, c'est ce chiffre qui m'a littéralement stupéfaite, 500 000 en France. 500 000 et pourtant, explique Le Monde, ils n'ont aucune reconnaissance, aucun statut à l'heure où on parle des aidants. 500 000 jeunes qui se retrouvent privés de solutions auxquelles ils pourraient pourtant accéder. Du soutien scolaire, un soutien psychologique ou encore une aide à domicile. Le problème, c'est que ces enfants sont extrêmement difficiles à repérer. Comment, par exemple, pour un prof, distinguer un élève fatigué par l'abus des grands de celui contraint de supporter une charge mentale d'adulte? Et puis, bien souvent, ces enfants ne disent rien, ils ne se manifestent pas, soit parce qu'ils ne se reconnaissent pas comme aidants, ça leur semble naturel de s'occuper de leurs parents, soit parce qu'ils préfèrent ne rien dire, par crainte notamment d'être placés. C'est en effet souvent la seule réponse apportée par la protection de l'enfance, regrette Françoise Hélien. Cette psychologue a fondé l'association Jade, qui est l'une des seules en France à proposer depuis 2014 un dispositif de soutien à ces familles. Il y a, dit-elle, urgence à mettre en place une vraie politique de prévention pour ces enfants, d'autant que face au vieillissement de la population, à la hausse des maladies chroniques, mais aussi à l'augmentation du nombre de familles monoparentales, ces jeunes seront sans doute à l'avenir de plus en plus nombreux à se retrouver dans cette situation. Urgent aussi de se préoccuper un peu plus de ce que mangent nos petits. L'UNICEF a publié cette nuit un nouveau rapport sur l'alimentation des moins de 5 ans et les résultats sont inquiétants. Dans Le Monde aujourd'hui, un jeune enfant sur 3 est mal nourri, soit sous-nutri, soit en surpoids. Le surpoids, un phénomène qui concerne, et ça aussi c'est inquiétant désormais, tous les pays ou presque, y compris les plus pauvres. L'UNICEF met aussi l'accent sur ces 340 millions d'enfants qui souffrent de faim cachée. Ils reçoivent le nombre de calories suffisantes, mais manquent de minéraux et de vitamines indispensables à leur développement. L'organisation appelle les gouvernements à promouvoir et à rendre accessibles les aliments nécessaires à un régime équilibré, à s'inspirer entre autres de ce qui se fait au Japon, champion du monde de la santé des petits, nous dit ce matin l'agence France Presse. C'est en effet le pays qui a l'un des plus faibles taux de mortalité infantile. Celui aussi où le taux d'obésité chez les enfants est le plus bas. La clé de tout ça, c'est le déjeuner scolaire dans toutes les écoles. Là-bas, au Japon, de la maternelle au collège, les repas sont établis par des nutritionnistes. Des déjeuners obligatoire, explique l'AFP. Les plats et casse-croûtes apportés ne sont pas autorisés. La plupart ne sont pas gratuits, mais ils sont très subventionnés par l'État. Chaque repas est calibré pour comporter environ 600 à 700 kilocalories et réparti de manière équilibrée. Des déjeuners qui ne servent pas seulement à nourrir les enfants, mais aussi à les éduquer, puisque figurez-vous que chaque jour, dans toutes les écoles, une annonce audio détaille les éléments nutritifs contenus dans le déjeuner du jour. En classe, bien se nourrir fait partie des programmes. Le dispositif qui a été mis en place en 1889, d'abord dans le nord du 1800. D'abord pour les enfants pauvres du nord du pays, a ensuite été étendu à tout le Japon après la Seconde Guerre mondiale pour lutter contre la malnutrition. Les résultats, je vous le disais aujourd'hui, sont éloquents puisque le pays a un taux d'obésité parmi les plus bas. 14% des 5-19 ans sont en surpoids. On est pour rappel à 30% en France, 37% en Italie et près de 42% aux États-Unis.
Et encore, on n'a pas compté les sumos. On est bien d'accord.
Oui.
C'était la revue de presse d'Amandine Bégaud.